Voilà, donc comme vous commencez à en avoir l'habitude, eh bien ce petit topo, nous allons le commencer en parlant de la Trinité par le biais d'un petit parcours biblique. Alors, attention dans ce genre de parcours à ne jamais faire d'anachronisme. Dans l'Ancien Testament, il n'est clairement pas question que Dieu puisse avoir un fils ou être Trinité. Voilà. Et pourtant, malgré ça, même en ayant dit cela, il y a des passages qui restent troublants. Et nous, comme chrétiens, tout de suite, on va y plaquer Dieu Trinité, mais on va un petit peu vite en besogne, en fait. Mais quand même, observons ces passages où on se dit, tiens, il y a un truc là quand même. Et le premier d'entre eux, en fait, il met pas longtemps à arriver dans la Bible, puisque dès les premières lignes de la Genèse, la première même ligne de la Genèse, on a au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Alors en français, on a l'habitude, et puis Dieu, ben, voilà, c'est le mot Dieu. Sauf qu'en fait, en hébreu, Dieu se dit Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel. En fait, donc c'est très étonnant de voir que Dieu, le nom de Dieu en hébreu, c'est un nom propre, mais qui est dérivé d'un pluriel, en fait. D'autant plus que donc ce Dieu unique a un nom pluriel, propre qui est dérivé d'un nom pluriel. Et c'est d'autant plus étonnant qu'un peu plus loin, au moment de créer l'homme, Genèse 1, 26, Dieu a comme un mouvement de recul, et il prend un peu de recul et il se dit, mais faisons l'homme à notre image. Faisons. Comme s'ils étaient plusieurs, en fait, là. Et ce pluriel, à ce moment-là du récit, est-ce qu'on a interrogé? Est-ce que Dieu n'a pas créé grand-chose quand même? Enfin, voilà. Donc soit il parle aux plantes et aux animaux, soit à qui il parle. Vous imaginez bien, cependant, que les Juifs ne nous ont pas attendus, nous les chrétiens, pour se poser la question de ce pluriel-là, faisons l'homme à notre image. Donc ils ont élaboré tout un tas d'interprétations. Certains, par exemple, ont imaginé que Dieu évoquait son projet avec les créatures célestes, les anges, les chérubins, etc., auxquels il fait qui fait participer à sa décision de créer l'homme, ce qui est assez beau aussi comme interprétation. Voilà. Et en même temps, voilà, on imagine bien que les premiers chrétiens ont rapidement eu une autre idée sur le sujet de ce nous. Qui est ce nous là-dedans, voilà. Un peu plus loin, en Genèse 18, on retrouve un peu le même procédé. Lors de l'apparition au chêne de Mamré, vous savez, où Abraham voit arriver trois voyageurs devant chez lui, il les installe et puis ils finiront par lui dire que sa femme sera enceinte. Et ce qui est étonnant dans ce passage, là encore, c'est que Abraham s'adresse à ses voyageurs tantôt comme s'il n'y avait qu'une personne, tantôt comme s'ils étaient plusieurs, et de leur côté même, ça va plus loin, les voyageurs répondent parfois au pluriel, parfois au singulier. Parfois ils disent nous, parfois ils disent je, et on ne voit pas où sont les autres quand ils disent je. Et à un moment même, ça va au point que le texte ne parle plus que d'un seul voyageur. Alors on est complètement perdu dans ce passage si on le lit en fait vraiment attentivement. Bon, alors, comme je vous le disais, quand même, tout ça, c'est cependant loin d'être suffisant pour proclamer que la Trinité est déjà clairement annoncée. Vous voyez, enfin, on est sur des choses qui sont troublantes, mais. On peut trouver d'autres explications, voilà, Dieu n'a pas dit je vous révélerai un jour la Trinité, vous verrez quand ça va se passer, pour l'instant c'est un peu tôt. Voilà. Non, il y a des passages un peu étonnants, et nous, chrétiens, avec nos lunettes, on se dit, ah bah tiens, en fait, peut-être que Dieu déjà préparait quelque chose. Mais voilà, c'est une relecture a posteriori. Si on poursuit notre parcours biblique, on peut aller jusque dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 13. Dans laquelle est développée une mystérieuse vision du prophète Daniel. Il voit, assis sur un trône, un vieillard que l'on identifie assez vite comme étant Dieu. Grande barbe et tout, grande majesté, enfin voilà, tous les attributs qui vont bien. Et puis, vers ce vieillard s'approche quelque chose qui ressemble à, disent-ils, un fils d'homme. Et à ce fils d'homme, on remet domination, gloire et royauté. Là encore, dans ce face-à-face vieillard, fils d'homme, notre regard chrétien imagine très vite voir le Père et le Fils, alors que le texte ne le dit pas du tout, en fait. Et les Juifs de l'époque, eux, imaginaient probablement d'ailleurs que ce fils d'homme mystérieux indiquait un roi puissant ou alors était une créature céleste. Ce n'était pas anodin, c'était pas impossible à l'époque que les rois se fassent appeler fils de Dieu. Voilà. Fils de Dieu hébreu, oui, mais aussi fils de Dieu dans les cultures environnantes, etc. Ou alors que cet être divin est un ange ou je sais pas quoi, voilà. Mais il y a a priori zéro chance pour que les Juifs de l'époque imaginent cet être comme un fils, comme quelqu'un de si grand, de si puissant que Dieu lui-même. Voilà. Si on termine maintenant notre parcours de l'Ancien Testament, on peut aller jeter un œil au livre des Proverbes, dans des passages qui sont là assez forts, assez beaux, où, par exemple, au chapitre 22, on a une personnification de la sagesse. Ce livre de la sagesse, il a été écrit au moment où la culture grecque a rencontré la culture hébraïque. Donc on a la sagesse, il faut imaginer derrière la philosophie grecque et toute cette vision-là de la sagesse, et cette vision-là va infuser dans les textes bibliques et former, pétri par la révélation aussi, vont former des livres nouveaux, dont le livre de la sagesse. Et la sagesse, là, est personnifiée au point de devenir divine, en fait. Je vous cite Proverbe 8, versets 22 à 23 et verset 30, mais on pourrait poursuivre ce magnifique passage jusqu'au verset 36, en fait. Mais voilà, pour pas être trop long, je vous ai fait un petit extrait. Un directeur cata, comme on dit dans le cinéma. Voilà. Les proverbes disent donc: Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment. Il est fort ce texte, quand même. Et quelle proximité entre la sagesse et Dieu. On n'est pas dans deux mondes, Dieu transcendant, absolu, qui regarde quelque chose de haut, qui s'amuse dans un jardin, quoi. C'est tôt dans cette proximité de la sagesse personnifiée qui est agissante et qui comble Dieu de joie. C'est quand même fort. Mais là encore, ne nous emballons pas, la sagesse reste quand même présentée comme une créature, même si elle est là avant les siècles. Elle a été créée, elle n'est pas Dieu lui-même, Dieu qui lui reste unique et inatteignable. Dieu, c'est Dieu, il y a un monde entre lui et nous, entre lui et tout ce qu'il a pu créer et faire. Et en même temps, avec tout ce que je viens de vous raconter, vous voyez peut-être bien comment le terrain était préparé, en fait, pour les évangiles derrière. En particulier le fameux prologue de Jean 1, 1, facile à retenir comme référence. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et vous avez lu juste avant un livre des Proverbes, là. Avant les siècles, j'étais formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre, et moi je grandissais à ses côtés. Voilà. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. On passe de la sagesse au Verbe, on voit comment, petit à petit, en fait, le trait se dessine, en fait. On retrouve dans ce prologue de Jean cette idée que dans son ciel, Dieu n'est pas seul, en fait. Il a un Verbe auprès de lui, une parole. Mais ce qui est nouveau là, c'est que cette parole, elle est Dieu. Elle aussi. Voyez donc peut-être comment les chrétiens, en prolongeant les intuitions qui parcourent tout l'Ancien Testament, finissent par saisir comment en Dieu l'unité et la multiplicité se conjuguent. Il n'y a qu'un Dieu, mais il y a en lui, trois réalités. Ces trois réalités, en fait, elles sont identifiables à de nombreuses reprises dans tout le Nouveau Testament. Vous pouvez prendre les évangiles, les lettres des apôtres, l'Apocalypse, et du coup, on peut nommer ces réalités en reprenant les termes révélés. Car, par exemple, pour prendre quelque chose de particulièrement parlant, lorsque Jésus dit: Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait en fait en disant ça? Non seulement il nous envoie à mission, mais pour notre sujet de ce soir, ce n'est pas ce qui est le plus essentiel. En disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il affirme que le Père, aussi bien que le Fils et l'Esprit Saint, sont Dieu. Il n'y a qu'un nom. En fait, voilà, il partage le même titre, je vais mettre ça entre guillemets, ou pour être plus juste, en fait, il partage la même gloire. Et je vais m'arrêter sur ce mot-là. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est cette impression que nous fait un être grand, imposant ou impressionnant. Vous vous trouvez devant quelqu'un, vous vous sentez impressionné, c'est ça. Ce qui vous impressionne, c'est la gloire de la personne. Donc c'est quelque chose de quasiment physique comme concept chez les Hébreux. Voilà, et du coup la gloire, c'est comme la signature d'un être. Et donc si des êtres ont la même gloire, ça veut dire que ce sont les mêmes, en fait. D'où, dans le credo, vous savez, il reçoit même adoration et même gloire. Voilà, donc que les juifs diront par le mot gloire, qui veut dire que deux êtres ont la même consistance, le même poids, les philosophes le traduiront dans leur langage par « ils ont la même nature ». Et ça veut dire qu'ils sont Dieu tous les deux. C'est donc dans l'appel de Jésus à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que la foi trinitaire trouve en fait son enracinement concret. Voilà. Ce n'est pas d'abord une spéculation, la foi trinitaire, c'est quelque chose dont Jésus vient nous parler et qui nous fait exercer dans le baptême. Pour le dire différemment, le dogme trinitaire n'est pas d'abord une spéculation abstraite des 12 apôtres qui se seraient assis un soir autour d'une table en se disant bah, « Attends, comment ça marche ce truc ?»« Ah, moi j'ai pensé à un tabouret, ouais, mais non, c'est pas ouf, moi je pense plutôt à des bougies. » Voilà. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Le dogme trinitaire, il naît d'une expérience qui est faite dans la liturgie du baptême. Les premiers chrétiens vont, comme ils le font au même moment pour expliquer qui est Jésus, chercher à expliquer cette expérience-là et cette formule qu'ils utilisent parce que Jésus leur a dit de l'utiliser. Et c'est à partir de là qu'ils vont élaborer. Et là encore, comme on l'avait vu un peu pour savoir comment Jésus peut être vrai Dieu et vrai homme, on va cheminer dans l'histoire de l'Église d'hérésie en hérésie, et on va avancer comme on peut pour essayer de mettre les mots les plus justes là-dessus. Alors, je vais tracer à la hache, en fait, hein, les grands parcours hérétiques, là, mais on se rend tous compte, tout comme pour Jésus, qu'à un moment donné de notre vie de foi, forcément, on tombe dedans. Voilà, vous allez forcément vous reconnaître dans une des deux hérésies, peut-être même dans les deux, comme moi je me suis reconnu au séminaire, dans les deux hérésies, sans sourciller, quoi. Quand les profs nous disaient « Ouais, alors voilà, on pourrait penser que Dieu est comme ci, comme ça », je dis « Ouais, c'est vachement malin, moi je pense ça aussi, voilà, mais ça c'est une hérésie, bon, bah, tant pis. » Voilà, et bon, Trinité, ça fait partie aussi de... On chemine aussi, enfin, l'Église a cheminé par le biais des hérésies aussi, en s'y confrontant, en les contredisant et en cheminant, et nous, on chemine aussi en tirant des bords, pour prendre une image, puisqu'on parlait de la Trinité comme port, voilà, on tire aussi des bords dans la foi pour grandir, et c'est normal. Bref, une première hérésie, ce serait de dire, écoutez, c'est facile, Dieu est unique, il n'y a qu'un Dieu, mais simplement, en fait, il a plusieurs façons de nous apparaître. De temps en temps, il prend un petit masque et il apparaît comme Dieu le Père, de temps en temps, il en prend un autre, il apparaît comme Jésus le Fils, et puis, pour nous parier les plaisirs, un troisième visage, c'est l'Esprit Saint. Mais en fait, derrière tout ça, il n'y a qu'une réalité, en fait, c'est juste des apparences, des masques, des visages, des... Voilà. Alors, c'est une hérésie qui répond au doux nom de modalisme, parce que Dieu apparaît sous différents modes, en fait. C'est très tentant parce que dans cette hérésie, en fait, on comprend bien que Dieu est unique. C'est très clair, pour le coup. On insiste à fond là-dessus, et on ne peut pas se tromper. Donc ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, en fait, ça m'est arrivé d'entendre mes animateurs d'aumônerie reprendre cette image des trois modes ou trois visages de Dieu pour parler de la Trinité aux jeunes. Voilà. Donc je bouillis un peu dans mon coin, mais c'est le risque aussi de qu'on comprend quand on annonce la foi. Voilà, on fait aussi avec ce qu'on est, et puis la foi passe aussi, heureusement, autrement que par des mots parfaitement ciselés de théologiens. Voilà. Bref. Le problème de cette image, donc, c'est qu'elle pose un grave problème, c'est que aucune des personnes de la Trinité n'a de consistance propre, en fait. Un mode, un visage, c'est une forme d'apparition, en fait, n'a pas de consistance. Et du coup, en fait, on a du mal à comprendre comment Jésus peut dialoguer avec le Père qui lui serait identique, puisque c'est simplement des façons d'apparaître, ça n'a pas de réalité derrière. Et du coup, on a du mal aussi à comprendre comment Dieu peut s'incarner tout en restant Dieu, et tout en faisant que la divinité de Jésus est une vraie consistance, elle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière phrase sur l'incarnation, de fait qu'on a du mal à comprendre, et on ne voit pas comment Dieu peut s'incarner en restant aussi au ciel? Et bien ça veut dire qu'on retrouve en fait un débat qu'on a déjà évoqué pour comprendre comment ça marchait en Jésus, ces deux natures, qui est qu'en fait, la question du fond, c'est est-ce que Dieu peut vraiment nous rejoindre? Est-ce que Dieu peut vraiment s'unir à notre humanité sans s'anéantir lui-même, sans devenir quelque chose du néant, en fait? Ou est-ce que notre foi, en fait, c'est... Pardon de le dire comme ça, mais que des conneries. Voilà. L'enjeu, il est là, quand même. Derrière tous ces débats un peu fumeux, je vous l'accorde. Voilà. Donc, cette question fondamentale derrière tous ces débats, qui peuvent les rendre particulièrement prenants, c'est, en fait, est-ce que Dieu vraiment me rejoint? Est-ce qu'il m'a vraiment sauvé? Est-ce qu'il m'a vraiment uni et attiré dans sa vie, en fait? Alors du coup, ben, si on dit « Ok, ça marche pas », et ben hop, on se tourne vers l'autre hérésie, qui est ce qu'on appelle le trithéisme, comme son nom l'indique. On dit « Il y a trois dieux ». Ok, ben, Oui, ils sont tous dieux, mais ils sont trois. Voilà. Nous, on est tous humains, mais on est 25 dans cette salle, je ne sais pas combien. Voilà. Et c'est facile à comprendre. Il y a bien une même chose derrière, la nature humaine, et en même temps, on est bien distinctes. Et le mérite de cette hérésie, c'est d'honorer la distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et on se dit simplement, en fait, ce qui les unit, ce qui fait qu'ils sont un, c'est pas quelque chose, c'est pas leur trip, mais c'est leur volonté. Ils sont tellement d'accord les uns avec les autres qu'ils sont comme si ils étaient un, collés, unis par leur volonté. Mais alors, le problème, c'est que d'une part, on sort complètement du monothéisme juif, là, on n'est plus du tout. Et puis, à aucun moment, Jésus n'a renié, que Jésus, pardon, que Jésus n'a jamais renié hein, ce monothéisme juif. Et puis d'autre part, on ne peut pas rendre compte de phrases qui sont dans la Bible et de phrases aussi fortes que le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Si on la prend vraiment dans son sens propre, ben voilà, on n'est pas juste un parce qu'on est d'accord et qu'on s'aime bien, en fait. C'est plus profond que ça. La citation, c'est Jean 10, 30. L'enjeu, c'est donc le suivant. Comment trois peuvent être un et un peut être trois sans qu'on ait affaire à une apparence de diversité ni à une apparence d'unité, en fait. Et voilà, je ne sais pas si vous vous rencontrez avec moi, mais en tout cas, je pense qu'on navigue souvent entre ces deux écueils-là. Voilà, on a du mal à ajuster la mire pour tenir les deux. Une vraie unité et une vraie diversité. Alors, comment on fait? L'idée de départ, c'est de dire que ces trois ont un fond commun. On peut appeler ça la nature. C'est un langage philosophique, voilà, qui a été choisi, la nature. C'est un peu comme pour vous et moi, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons en commun la même nature humaine, même si on est différent. Et vous êtes aussi humain que moi, et je suis aussi humain que vous, même si on est différent. Vous voyez? Donc, on dit pour Dieu, voilà, on va appeler nature ce qu'il y a en commun. La difficulté, c'est que on ne peut pas s'arrêter là sans arriver à la conclusion logique qu'on a devant nous trois dieux, du coup, en projetant ce qu'on vit, nous, comme être humain. C'est pourquoi il va falloir être plus précis et on doit affirmer que les trois n'ont pas seulement une même nature, mais une même substance. Au nouveau terme technique, une même substance. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Vous et moi, on est de même nature, mais si je mourrais maintenant parce que je fais un arrêt cardiaque, vous seriez peut-être un peu choqué, peut-être très triste, mais normalement vous ne mourriez pas sur place instantanément, vous voyez? Parce qu'on n'est pas de la même substance. Mon existence et la vôtre ne sont pas liées, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on distingue la nature et la substance, et que dans le credo, on est revenu à ce mot compliqué de consubstantiel. De même nature, en fait, c'était une hérésie. C'est un peu con pour un credo quand même. Enfin, pardon pour le vocabulaire ce soir, mais.
On s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps, parce que j'ai
voilà. C'est ça. Mais voilà, donc on a quand même corrigé ça. On a préféré trois natures parce qu'on disait que c'était plus accessible dans le langage, plus facile à comprendre, à dire, etc. Donc on a préféré ça. Mais au bout d'un moment, c'est quand même dit, c'est quand même gênant de faire dire un truc aussi gros. Bref. Voilà. Et donc en Dieu, ils sont consubstantiels, ce qui fait que s'il y en a un qui meurt, imaginons, hein, ben les deux autres instantanément disparaissent, en fait. Ils sont donc pas simplement de même nature, mais ils sont plus profondément de même substance. Et donc avec ce mot de substance, on comprend donc bien l'égalité et l'unité vitale qui unit nos trois quoi, en fait. Eh bien, là encore, il a fallu pas mal batailler pour trouver le mot adéquat. Voilà, j'ai entendu dans le public qu'il y en a qui ont la bonne réponse, mais il y a eu une grosse bataille, en particulier entre le côté latin et le côté grec de l'Empire romain. Parce qu'il n'y avait pas la même culture, pas exactement les mêmes mots non plus, pour désigner les réalités. Et je ne m'étendrai pas sur le débat qui est un peu long et complexe, mais c'est juste pour vous éveiller au fait que ce n'était pas si facile que ça, de trouver un mot pour désigner nos réalités. Les Latins préféraient de leur côté le mot persona, qui chez eux a une connotation très juridique. Ouais, une persona, c'est quelque chose de, c'est ce que je désigne comme étant une personne, à une réalité juridique et donc une réalité sociale, parce que je désigne comme telle. Tandis que les Grecs préféraient le mot hypostase, très classe à placer dans les dîners, hein, je vous le recommande, hypostase, qui est un mot beaucoup plus métaphysique. Pas étonnant, c'est eux qui l'ont inventé, la métaphysique. Et permettez-moi d'oser le dire comme ça, c'est quelque chose qui renvoie à une réalité plus concrète, le mot hypostase. Parce que justement, il y a ce côté métaphysique, en fait. La métaphysique part toujours du réel pour en tirer des conclusions sur du visible pour en tirer des conclusions sur l'invisible, donc d'où le côté toujours un peu concret qu'il y a derrière, même si c'est. C'est très spéculatif. Donc le temps imparti pour ce topo ne va pas permettre de tout développer là-dedans, mais toujours est-il que les débats ayant fini par à peu près converger, le mot « personne » finit par sembler le plus adéquat pour désigner chacun des trois. Dieu est donc trois personnes d'une même substance. Donc la substance désigne ce qu'ils ont en commun, ce qui leur fond vital commun, et le mot « personne » permet de désigner ce qui les différencie, en fait. Pour donner un peu plus de sens à cela, je voudrais vous présenter maintenant deux géants de la théologie. Le premier, c'est saint Augustin. Saint Augustin, en Occident, réalise la première synthèse extrêmement puissante sur la Trinité. Le bouquin s'appelle « De Trinitate », facile à retenir, ok. Voilà, de la Trinité. Et pour réussir son tour de force, il va s'appuyer sur une catégorie qui, en fait, avait été complètement délaissée par la philosophie. Cette catégorie, c'est la relation. Ça a été délaissé parce que la relation, c'est ce qui paraît le plus fragile, en fait. Oui, une substance, ça paraît solide, une table, voilà, on voit ce que c'est. Une relation, et puis ça dépend de qui est là, ou si les gens sont là ou pas. Enfin, voilà, ça dépend de trop de trucs, quoi. C'est trop fragile. Mais Augustin va reprendre ce truc-là et va partir d'une idée assez simple, en fait. En Dieu, il n'y a évidemment ni temps, ni espace, ni matière pour distinguer les choses. On ne peut pas dire « le Fils est là » et « le Père est là ». On ne peut pas dire « avant, il y avait le Père, après, il y avait le Fils ». Ça n'a pas de sens en Dieu. Donc, ni le temps, ni l'espace ne permettent de les distinguer. Donc, dès qu'on essaye d'imaginer Dieu et qu'on met du temps et de l'espace, on sait qu'on est mort dans notre représentation. La seule chose qui puisse permettre une distinction en Dieu, du coup, c'est quoi ? C'est l'action qu'une chose a, l'action qu'une réalité a. C'est ça qui va permettre de distinguer. Ou, dit autrement, c'est la relation qu'on entretient avec le reste. Ainsi, le Père est distinct du Fils parce qu'il engendre le Fils, tandis que le Fils, lui, accueille, reçoit. Donc, ils ont deux actions différentes. C'est ça qui permet de les distinguer. Et une fois posé cela, le reste en découle assez naturellement. On voit que le Père et le Fils en même nature, ils sont autant Dieu l'un que l'autre parce qu'ils sont autant relation l'un que l'autre. On peut mettre des guillemets autant, dans les expressions « autant Dieu l'un que l'autre » et « autant relation l'un que l'autre hein. ». C'est toujours un peu avec les mains. Mais en tout cas, on voit aussi qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre parce qu'un père n'existe pas sans fils et que pour être fils, il faut un père, par définition. Voilà. La difficulté, seulement dans la vision d'Augustin, là, c'est de rajouter dans la sauce l'Esprit Saint, en fait. Parce qu'on voit bien la relation père-fils, on voit bien que s'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de père, et s'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, quoi. Mais bah, du coup, l'Esprit Saint, c'est un peu la cerise sur le gâteau, là, on la pose dessus parce qu'on nous a dit qu'il existait, mais on ne sait pas trop quoi pour faire, en fait. Hein. Et donc, il va falloir aller un peu plus loin, et pour cela, nous attaquer à un deuxième monstre de la théologie, j'ai nommé Saint Thomas d'Aquin. Exactement. Voilà, pour le plus grand bonheur du public. Saint Thomas va reprendre le travail de Saint Augustin, et il va donner à la notion de personne sa définition classique, en disant la personne, c'est un être de relation. En Dieu, être une personne, c'est être Père ou Fils ou Saint-Esprit. Et c'est là, en fait, voyez-vous, qu'une personne divine va se distinguer d'une personne humaine. On porte le même nom, on est une personne, nous, comme le Fils est une personne ou le Père est une personne, mais en fait, ce n'est pas exactement la même définition de la personne qu'il y a derrière. Parce que si vous ou moi, on arrête d'être en relation avec d'autres personnes, on ne disparaît pas, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le néant. Alors que, en fait, en Dieu, c'est la relation même qui définit la personne. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est pour dire que le mot personne est un peu piégé, parce que quand on parle de personne humaine, on ne parle pas exactement de la même chose que quand on parle de personne divine. Une personne divine, c'est un être en lien. Dieu est lien, Dieu est communion, Dieu est amour. Voilà. On peut même faire un pas de plus. Dire que le Père existe par sa relation au Fils, ça veut dire que le Père existe parce qu'il engendre le Fils, en fait. Et il faut reconnaître que des fois, on imagine Dieu le Père qui un jour se dit « Tiens, si j'avais un Fils !» Vous voyez ? Ça, c'est pas vrai. Ça marche pas, c'est parce qu'il y a forcément une temporalité dans notre vision-là. Un avant, un après. Voilà. Il faut dégager toute notion de temporalité pour essayer d'approcher du mystère de Dieu. Réciproquement, le Fils existe parce qu'il accueille ce mouvement du Père. On peut donc distinguer les personnes divines non seulement par leur relation, mais par leur action. Ce qui fait que le Fils est différent du Père, c'est qu'il n'engendre personne. Il accueille le don du Père, il le retourne au Père. Mais il se trouve que le don du Père, c'est l'Esprit Saint. Et donc là, on se rend compte que dans la relation Père-Fils se cache nécessairement, en fait, l'Esprit Saint. Il était planqué dans ce face-à-face, Père-Fils. Et donc, on se rend compte que dans la relation Père-Fils, on se rend compte qu'il n'y a pas de paternité sans don, il n'y a pas de filiation sans accueil de ce don, et donc il n'y a pas de Fils sans Père et sans Esprit Saint, pas plus qu'il ne peut y avoir de Père sans Fils et sans Esprit Saint, et donc, enfin, pas d'Esprit sans le Père et le Fils. Voilà. Ok ? Il faut vraiment les trois personnes pour avoir l'unité de la Trinité. Je terminerai simplement en ajoutant ceci. Ces relations de personnes en Dieu permettent de comprendre qu'en lui, il y a à la fois égalité et ordre. Vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir ? Je vais essayer d'être un peu plus clair là-dessus, mais c'est un point qui me paraît important, quoique assez peu connu. Chacun a son rôle propre. Le Père engendre le Fils, qui l'accueille. De cette relation procède l'Esprit Saint, qui est le don de l'un et l'autre, donc qui est en même temps l'union, l'unité du Père et du Fils. Dans la Trinité, en fait, on a ces trois personnes qui sont autant Dieu l'une que l'autre, donc égales, en fait. Et en même temps, tout part du Père, tout est donné au Fils dans l'Esprit. Et inversement, tout revient au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Il y a vraiment ce mouvement de circulation avec le Père qui est premier, en fait. Mais il faut dégager, le mot premier de toute notion de temps. Ça part du Père, mais sans avant, sans après, sans temps. Mais il y a quand même un ordre. Le Père, ce qui fait que Jésus peut dire « le Père est plus grand que moi ». Avec ce paradoxe qui sont un, qui sont autant Dieu l'un que l'autre. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'est important ? Parce que je pense que ça dégage aussi notre vision marquée par le péché, que parce que quelqu'un serait premier, forcément, il mettrait la pression sur l'autre et opprimerait celui qui est plus petit. Dans la Trinité, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc j'ose imaginer que dans un monde sans péché, on pourrait être chef sans que tout de suite il y ait un sentiment d'oppression qui s'abatte sur celui qui est pourtant autant humain que nous, mais qui vient après dans l'ordre de hiérarchique. Voilà, je laisse ça à votre méditation. Mais, voilà. Bref, on a ce mouvement donc, qui part du Père, qui va au Fils dans l'Esprit Saint, et qui remonte vers le Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Et donc peut-être que si vous avez suivi, si vous percevez ce mouvement-là de la vie qui est en Dieu, peut-être que vous percevez que le mystère de la Trinité, révélé par la vie de Jésus, en fait, ce n'est pas simplement un simple délire de théologien, mais bien un des mystères centraux de notre vie de foi. Un mystère qui nous fait entrer dans le cœur même de Dieu, et dans la vie même de Dieu, en fait. Et plus on médite, plus on entre dans cette vie de Dieu. Voilà. Alors, ça fait 28 minutes que je cause. Je ne sais pas si à ce stade de l'exposé, il vous reste encore quelques neurones d'élite vaillants. Mais, si c'est le cas, peut-être que vous avez senti que ce mouvement qui, depuis toute éternité, dans la Trinité, va vers le Père, par le Fils et dans l'Esprit, bien, c'est celui que nous reproduisons dans la liturgie, en fait. À la messe, nous prions toujours le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Et c'est le Père qui nous comble par son Fils, dans l'Esprit. Pensez par exemple à la formule « par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit ». Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. On passe par le Fils, pris dans le mouvement de l'Esprit Saint, et on va ensemble vers le Père. Alors, voilà, nous sommes entrés dans cet exposé par la liturgie du baptême, et on la termine ici, sur cette remarque liturgique, là encore. Et tout ça pour vous dire quoi, en fait ? Une petite remarque bête, mais voilà, forcément, comme prêtre, il faut que je vous la fasse. La liturgie, c'est en fait l'entrée concrète, réelle, dans la vie même de Dieu, dans le mouvement même qui anime la Trinité, qui nous prend dans l'Esprit Saint, nous fait passer par le Fils pour aller vers le Père. Et donc, moralité, si on veut entrer dans la vie de Dieu, en fait, on ne peut pas être un chrétien non pratiquant. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est dans la liturgie qu'on entre par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, vers la gloire du Père. Voilà donc ce que je pouvais vous raconter ce soir sur la Trinité. S'il y a des flous ou des choses qui ne sont pas encore bien claires, dites-vous que j'ai en une demi-heure expliqué tout Dieu. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des choses qui étaient dites un peu avec les mains et qui soient parfois peut-être un peu bancales, mais voilà, n'hésitez pas à échanger avec vous dans le temps qui va vous être donné et à votre tour aussi, voilà, à continuer en fait à travailler ça pour vous faire votre propre équilibre en fait, et jouer avec ça pour sentir en fait davantage ce que c'est que cette Trinité que nous adorons comme Dieu un seul, unique en trois personnes.